Bonsoir et bienvenue dans le feuilleton de France Culture. Ce soir et tous les soirs de cette semaine, fiction et histoire se croisent en direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Mai 68 s'est beaucoup écrit à travers les affiches, les slogans. Deux historiens l'ont très vite compris, Pierre Vidal-Naquet et Alain Schnapp, ont collecté tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les rues, dans les poches, les salles de réunion, auprès de leurs amis. Parmi plusieurs milliers de tracts et de journaux, ils ont retenu 362 textes, reproduits et commentés dans un livre intitulé « Journal de la commune étudiante, textes et documents, novembre 1967-juin 1968 », un livre paru dès le début de l'année 69. À l'occasion de la réédition de cet ouvrage aux éditions du Seuil, nous avons proposé à Sophie Maurer, écrivain universitaire, de composer un feuilleton polyphonique en taillant un chemin dans tous ces documents. Voici donc ces pages volées au journal de la commune étudiante. On retrouve tout de suite le réalisateur Christophe Hoquet et son équipe en direct du studio 118 de la Maison de la Radio.
Épisode 3, la montée du mouvement, du 3 au 15 mai.
À partir du 3 mai 1968, c'est contre la police que se dresse un nombre croissant d'étudiants. Au « Professeur, vous êtes vieux » de Nanterre s'oppose désormais le slogan « Des profs, pas des flics ». Le cri CRS-SS remplace le chant de guerre des Polonais de Nanterre.
Je trouve que c'est inadmissible. Le président devrait être ici, il n'est pas là, on vient de l'appeler. On va voir s'il va venir, ok ? S'il a un petit peu de courage, il viendra s'expliquer de tels jasissements. On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec ces événements, mais au moins on s'en explique. Et on n'amène pas les CRS alors que rien ne s'est passé dans cet établissement pour le moment.
Au matin du 3 mai, la fermeture de Nanterre et la citation d'étudiants ayant participé au mouvement du 22 mars devant le conseil de l'université incitent les militants des organisations étudiantes à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. S'y mêlent membres de l'UNEF, militants de la JCR, de la Fédération des étudiants révolutionnaires et du MAU, Mouvement d'action universitaire. Survenu la veille, l'incendie des locaux de la Fédération des groupes d'études de lettres par un commando d'Occident, mouvement politique d'extrême droite, rend l'atmosphère tendue. En prévision d'une attaque fasciste, le service d'ordre de l'UNEF prend position dans la Sorbonne. À 16h45, sans la moindre sommation officielle ou officieuse, les forces de police guidées par le secrétaire du rectorat pénètrent dans la cour de la Sorbonne par la rue des Écoles. Le ramassage des étudiants commence tout de suite et se poursuit jusqu'à 19h. Pendant ce temps, une manifestation éclate spontanément à partir de la place de la Sorbonne au cri de « Libérez nos camarades ». Elle est très durement réprimée dès le début, vers 17h30. Les premiers pavés volent. Ils volent spontanément dans l'ardeur et la colère alors que la grande majorité des responsables étudiants sont prisonniers à l'intérieur de la Sorbonne. Pour la première fois, sans aucun mot d'ordre des appareils, le quartier latin se mobilise.
On a un étudiant au Mirail qui est hospitalisé. Une grenade de son sacrement qui l'a explosé à côté, comme pour Rémi Fraise. Des évacuations à Tolbiac partout, inacceptable. Les organisations syndicales et politiques doivent prendre leurs responsabilités et appeler à la grève générale.
Le 4 mai au matin, organisations syndicales et mouvements étudiants sentent que la répression policière a déclenché un processus nouveau. Le MAU insiste dans ses tracts du jour sur les nécessités d'organisation à la base que la situation fait surgir.
La preuve a été faite que de nombreux étudiants non membres d'organisations syndicales ou politiques voulaient agir.
Le mouvement de révolte contre la bureaucratie et le pouvoir gaulliste doit être un mouvement de militants.
Appartenant aux militants.
La presse menteuse.
Les mandarins universitaires.
Les flics du pouvoir.
Espèrent en cachette que demain,
tout rentrera dans l'ordre.
Pour développer la révolte commencée vendredi,
il faut s'organiser ensemble.
À la base.
En comité d'action.
Premier cas.
Votre faculté est fermée.
Contactez.
Réunissez.
Décidez.
Prenez.
Fixez.
Deuxième cas.
Votre faculté n'est pas encore fermée.
Réunissez.
Engagez.
Établissez.
Affichez.
Forcez.
Gagnez.
Dans tous les cas.
Prenez l'initiative.
La presse, comme à Berlin, comme à Rome, essaye d'exciter les travailleurs contre les étudiants.
Le gouvernement veut isoler les étudiants.
Il faut réagir, informer la population,
la gagner.
Comme hier, sur le boule miche où les passants, des travailleurs, ont pris parti pour les étudiants contre les gardes mobiles.
Il faut faire des tracts pour informer la population, provoquer des discussions dans les cafés, le métro, les quartiers. Préparez-vous pour lundi. Tous au quartier latin.
L'UNEF enchaîne par un tract qui ne lui ressemble pas. Un tract émanant officiellement de l'UNEF, mais qui tient davantage du style et des positions de la FER, Fédération des étudiants révolutionnaires, dont les militants assurent l'impression. Un tract intitulé « Appel à la population ».
Les ouvriers refusent la société qui les exploite. Les étudiants refusent Une université qui tend à faire d'eux des cadres dociles d'un système fondé sur l'exploitation, parfois même les complices directs de cette exploitation. La presse réactionnaire vise à présenter le mouvement étudiant comme une révolte de jeunes privilégiés et cherche à nous couper de nos alliés naturels. La bourgeoisie sait en effet que c'est aux côtés des travailleurs et à leur côté seulement que les étudiants peuvent vaincre. La riposte doit être immédiate, grève générale dès lundi et jusqu'à la libération de tous nos camarades.
Après l'UNEF, le SNESUP, syndicat national de l'enseignement supérieur, se joint au cœur, appelant les membres de l'enseignement supérieur à la grève générale dans toutes les universités. Le dimanche 5 au soir, 4 étudiants sont condamnés à des peines de prison ferme. La mobilisation du lundi 6 mai est telle que la manifestation débute à la périphérie du quartier latin dès 9h du matin. 8000 personnes environ.
À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens.
Loin de tous ces prétextes, le motif c'est d'avoir défendu des idées socialistes au sein d'un établissement qui doit former les cadres d'une société d'exploitation.
La journée est émaillée de heurts violents qui voient s'élever les premières barricades. Vers 16h, les premiers groupes anarchistes avec drapeau noir font leur apparition. Il y aura 422 interpellations ce jour-là. Le 7 mai, l'UNEF lance un nouveau mot d'ordre de manifestation à Denfert Rochereau à 18h30.
Depuis le vendredi 3 mai, la police, après avoir lockouté Nanterre, occupe la Sorbonne, ce qui ne s'était pas vu depuis l'odieux régime de Pétain.
Les positions des étudiants et d'une grande partie des enseignants sont claires.
Il ne peut y avoir de dialogue dans la situation actuelle.
Il ne peut y avoir de dialogue entre matraqueurs et matraqués.
La situation ne peut trouver d'issue que sur les bases suivantes.
Petit 1.
Lever des poursuites administratives, judiciaires et universitaires engagées contre les étudiants. Non-lieu sur les enquêtes en cours. Libération des détenus.
Petit 2.
Retrait des forces de police de tous les lieux universitaires.
Petit 3.
Levée du lockout dans les établissements universitaires.
Un débat pourra alors s'engager dans l'immédiat.
Grève totale dans tous les établissements parisiens. Diffusion des tracts et du journal de l'UNEF.
Au fait, quelques trucs contre les grenades. Runicine, un comprimé au début de la manifestation, un comprimé quand les grenades sont lancées. Citron, en imbiber un mouchoir, en avoir à sucer. Bicarbonate, autour des yeux, à diluer sur un mouchoir. Lunettes de moto ou de haute montagne, fermées sur les côtés ou masques aquatiques. Gants et casques, les porteurs de casques sont les premiers pour chasser. Les casquettes rembourrées sont plus à conseiller. Journaux sur le corps, couvercle de poubelle comme bouclier, chaussures montantes ou baskets.
Du côté de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, parfois sous la signature Comité de défense contre la répression, une tactique différente est proposée. La descente des étudiants vers les quartiers ouvriers. À Paris et en province, des comités de soutien aux luttes du peuple sont créés. Tract imprimé le 7 mai 1968, signé UJCML, Cercle, servir le peuple.
Partout, les appareils réformistes,
la direction révisionniste du PCF,
la direction bureaucratique de la CGT,
se sont efforcés de briser le mouvement des masses à Rodiaceta,
à Schwart, au Mont,
à Luvac,
à la céramique d'Alès,
et en bien d'autres endroits.
Mais de plus en plus, les masses prennent conscience de leurs manœuvres visant à briser la lutte de classe dans l'usine,
afin de canaliser l'action vers des objectifs réformistes.
Et surtout vers des joutes parlementaires.
Nous pouvons continuer longtemps à rester au quartier latin, isolés des masses populaires sans que la bourgeoisie tremble.
C'est pour elle un moindre mal.
Tous ces porte-paroles nous y invitent.
La Sorbonne est un vieux tas de pierres.
Saint-Denis, ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers qui luttent.
Les flics peuvent rester au quartier latin et nous y attendons.
Qu'ils viennent dans les banlieues.
Qu'ils viennent à Saint-Denis.
Essayez de nous empêcher de nous lier aux travailleurs.
Nous les attendons.
Avec les ouvriers.
Vous n'avez qu'à demander un jour au comité d'entreprise qui vous envoie dans les endroits où ils montent les 4L. Puis vous verrez les boyaux où les gars ils sont obligés de passer 8 et 9 heures par jour.
Ils ont pas le temps de crever là.
Pour des petits salaires de misère, des salaires de misère. Alors c'est normal que maintenant, il y a des gens qui veulent se révolutionner. C'est normal, c'est tout à fait logique.
La manifestation du 7 mai réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes. Après une longue marche jusqu'à l'Étoile, les manifestants reviennent rue de Rennes, où la police charge. Le 8, le mouvement se généralise dans les villes universitaires, tandis que dans l'Ouest, au Mans, à Rennes, Lorient, Brest et surtout Nantes, d'importantes manifestations ouvrières, paysannes et étudiantes se déroulent. Face à cette mobilisation sans cesse croissante, les comités d'action rappellent les formes nécessaires d'organisation et les impératifs politiques.
Camarades, Le Conseil des ministres hésite, mais n'a pas encore cédé. Il adopte même un ton guerrier. Depuis 5 jours, les étudiants tiennent en échec la plus formidable mobilisation policière qu'ait jamais connue le quartier latin.
Vendredi, 3 000.
Lundi, entre 15 et 20 000.
Mardi, 50 000 à l'étoile.
Mais l'organisation n'est pas encore à la hauteur de la magnifique mobilisation qui se réalise.
Les groupes politiques, trop divisés, trop nombreux, ne peuvent suffire.
La seule forme d'organisation adéquate, c'est la constitution à la base, dans l'unité pour l'action de comités d'action.
En masse, mais inorganisée, nous pouvons faire des incidents. Une, deux journées d'émeute.
En masse et organisée, nous pouvons faire céder le pouvoir, sa police et ses complices.
Également du 8 mai, un tract du mouvement du 22 mars intitulé « Presse plus université plus flic plus patronat égale répression ».
Nous refusons de devenir des professeurs au service de la sélection dans l'enseignement.
Sélection dont les enfants de la classe ouvrière font les frais.
Des sociologues fabricants de slogans pour les campagnes gouvernementales électorales.
Des psychologues chargés de faire fonctionner les équipes de travailleurs selon les meilleurs intérêts des patrons.
Des scientifiques dont le travail de recherche sera utilisé selon les intérêts exclusifs d'une économie de profit.
Nous refusons cet avenir de chien de garde.
Nous refusons les cours qui nous apprennent à le devenir.
Nous refusons d'être recrutés par ces mafias.
Nous refusons d'améliorer l'université bourgeoise.
Nous voulons la transformer radicalement.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. You know she's half crazy, but that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her, and she gets you on her wavelength, she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. You know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
Suite logique du ralliement progressif des appareils politiques et syndicaux, une déclaration intersyndicale publiée le 10 mai propose des manifestations de soutien pour le 14 mai. Les événements de la soirée en décident autrement. La Fédération des étudiants révolutionnaires, la FER, organise le soir du 10 mai un meeting à la Mutualité. Après un départ vers la prison de la Santé, le cortège rejoint par de nombreux lycéens et qui comprend, fait exceptionnel, un fort contingent d'étudiants en médecine, en pharmacie et en droit, est orienté sous la pression de la police vers le quartier latin. Le mot d'ordre d'occupation du quartier est lancé. Des négociations s'engagent avec le recteur Roche et le vice-recteur Chalin. Leur résultat est attendu dans un mélange de joie et d'angoisse. Spontanément, une soixantaine de barricades s'élèvent, dont quelques-unes sont sérieuses, mais dont la plupart ne sont guère que des tas de pavés. À partir de 2h15 commence le nettoyage des barricades. Un tract de l'UNEF donne le lendemain le récit de cette nuit que l'on appellera désormais la nuit des barricades.
Nous sommes avec M. Grimaud. Monsieur le préfet, la journée a été chaude, vous en conviendrez. Peut-on faire déjà un bilan de cette journée ?
Oui et non, c'est-à-dire que la journée n'est pas terminée et nous avons encore en ce moment-ci, à l'heure où nous parlons, des incidents, même assez sérieux, sur le boulevard Saint-Germain.
La vérité sur les événements de la nuit du 10 au 11 mai. Pendant près de 4 heures, les étudiants ont occupé le quartier latin, dans le calme, en attendant une réponse publique du gouvernement. Cette réponse, ils l'ont eue. À 2h15, les forces de police attaquèrent brutalement les manifestants en utilisant de simples grenades lacrymogènes.
Mais aussi
des grenades au chlore et à l'ammoniac.
Des grenades incendiaires.
Des grenades soufflantes.
La brutalité de la répression a été telle que de nombreux blessés ont été relevés.
Il est à cette heure difficile de dresser le bilan.
Après avoir dégagé une rue, les CRS visitaient soigneusement toutes les maisons pour en tirer les manifestants qui s'y étaient réfugiés.
De nombreux blessés ont été tabassés dans les quarts de police.
Rien n'a été fait pour faciliter le travail des groupes de secours.
Bien au contraire.
Jamais la sauvagerie n'avait été poussée jusqu'à ce paroxysme. les étudiants ne céderont pas. Ils demandent à la population, aux travailleurs, de les soutenir. Dernière minute, appel CGT, FEN, CFDT, UNEF, tous à la manifestation à la République lundi 13 mai à 15h.
Je me présente Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova.
Nous sommes les cobayes pour les expériences d'une police sadique qui a déjà Sharon et les tortures d'Algérie à son actif. Au cours d'une conférence de presse tenue ce soir dans un amphithéâtre de la Faculté des Sciences, le professeur Khan, agrégé de médecine, s'est élevé contre l'usage d'un gaz particulièrement toxique lors des manifestations du quartier latin. Ses observations lui ont permis d'identifier formellement le chlorobenzylidène malonitril. Ce n'est pas possible de discuter avec un assassin et un menteur. Nous continuons l'action dans la rue et l'occupation des facultés jusqu'à ce que Grimaud ait Fouché et démissionné.
L'appel à la manifestation intersyndicale du 13 mai suscite une série de ralliements. Commerçants du quartier latin, municipalité de Nanterre, professeurs. Laurent Schwartz et Henri Cartran, professeurs de mathématiques à la faculté des sciences de Paris, démissionnent de l'université. Le samedi 11, toujours, l'annexe censier de la faculté des lettres est occupée à l'initiative du mouvement d'action universitaire. Le mot d'ordre d'occupation des facultés va s'étendre à toute l'université. La manifestation et la grève se préparent avec énergie. Tract, signé, CGT, CFDT, SNESUP, FEN, UNEF, Union des grandes écoles.
Grève générale lundi 13 mai.
Les organisations syndicales ayant appelé à la riposte populaire face aux graves événements du quartier latin se sont réunies d'urgence.
Elles décident de relever le défi du pouvoir en appelant à une grève générale de 24 heures.
Le lundi 13 mai.
Et à de puissantes manifestations auxquelles la population ne manquera pas de participer massivement.
Les délégations du Parti communiste français conduites par Waldeck Rocher,
secrétaire général.
Et de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste conduite par François Mitterrand et Guy Mollet,
réunies en fin de matinée,
ont décidé d'apporter leur soutien le plus total aux initiatives décidées par les centrales syndicales.
Le 11 mai à 23h15, Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, a pratiquement capitulé en cédant sur les trois revendications fondamentales de l'UNEF et du SNESU. Libération des étudiants emprisonnés, évacuation de la Sorbonne par les forces de police, réouverture des facultés. Le mouvement est ainsi poussé à dépasser ses propres objectifs en vue de la manifestation du 13. Le mouvement du 22 mars s'y emploie dans son tract du 12 mai.
Les manifestants et la population ont été asphyxiés par les gaz,
blessés par les éclats des grenades,
assommés à coups de crosse et de matraques,
poursuivis jusque dans les appartements,
passés à tabac dans les commissariats,
arrêtés par centaines.
À ces violences,
les manifestants ont opposé leur détermination politique.
Les mercenaires de la bourgeoisie ont connu les délices des cocktails Molotov et goûté les tendresses des pavés devant les barricades.
L'État policier est contraint de reculer et semble céder sur les trois conditions que les manifestants posaient comme préalables à toute discussion.
Mais les problèmes de fond restent posés.
Les flics ne sont que des larmes. De Gaulle.
Et De Gaulle n'est que le larbin actuel de la bourgeoisie.
Nous exigeons comme nouveau préalable
la démission de l'assassin Grimaud, préfet de police de la flicaille parisienne.
La démission de l'assassin Fouché, ministre de l'Intérieur et premier flic de France.
L'ouverture d'une enquête judiciaire sur les crimes policiers.
Avec participation de représentants des manifestants à côté des magistrats de la justice bourgeoise.
Le désarmement des CRS.
SS.
Il est clair que la bourgeoisie ne voudra pas désarmer son bourreau.
Nous l'y obligerons par notre action.
Pour en finir avec la répression,
les travailleurs et les étudiants doivent gagner leur liberté.
Dans la rue.
Tant que les flics seront armés,
les étudiants et les travailleurs doivent organiser leur autodéfense.
Pour résister victorieusement à la répression organisée.
Dans la soirée du 13 mai, la Sorbonne occupée est rouverte aux travailleurs. Dans la nuit du 13 au 14, des commissions d'ouvriers et d'étudiants établissent ensemble un texte.
Un point très positif. Dialogue difficile mais fructueux entre travailleurs et étudiants de la Sorbonne. Solidaires, ils réclament de continuer la lutte commune contre le premier responsable, le gaullisme, en tant que représentant du pouvoir capitaliste. Plateforme minimum au départ, démission Fouché-Grimaud.
Une permanence siégeant 24 heures sur 24 est assurée pour la commission rapport ouvrier-étudiant.
Escalier C,
deuxième étage.
Première porte à droite.
À la Sorbonne.
Venez-y en masse.
Le mouvement se pose aujourd'hui la question du renversement du régime gaulliste. La rancœur, la colère froide provoquée depuis des années par les brimades policières
et les vexations journalières ont explosé.
La répression anti-grève,
les CRS dans les usines,
les razzias flicaillères contre les jeunes de banlieue.
Toutes les manifestations quotidiennes d'un État largement fondé sur la puissance de ses polices.
Tout cela a ressurgi,
brusquement libéré par l'annonce du combat.
Des énergies nombreuses sont venues se joindre aux étudiants contre les flics.
C'est la haine de la police,
la haine de la répression qui fut le moteur de l'action principale.
Leçon à méditer. stupidité.
Contre les flics, il fallait dire la Sorbonne aux étudiants.
Maintenant que nous l'avons, il faut crier la Sorbonne aux travailleurs.
Maintenant, il faut aller vers la classe ouvrière.
Dans les banlieues, nous devons aller rétablir la vérité sur notre lutte, dire pourquoi nous sommes contre le capitalisme.
Nous devons aussi y aller apprendre la vérité concrète de ce que nous savons que par des livres.
L'exploitation du travail.
La Sorbonne est notre base.
Ce n'est pas le terrain de combat.
Il faut s'organiser à la base.
Dans l'action.
Pour l'action.
Partout, des comités d'action.
Le pouvoir se prend dans la rue.
Formons des groupes de discussion où tout peut être dit et remis en question.
Préparons la coordination de nos comités.
Exprimons-nous par des tracts,
des journaux,
des prises de parole dans la rue,
des affiches sur les murs,
des films.
Pour que la voix des travailleurs domine enfin le mensonge de la bourgeoisie.
Contre la répression policière.
Contre la violence du capitalisme.
Organisons
l'autodéfense.
Le 16 mai, les comités d'action révolutionnaire du théâtre, des travailleurs et des étudiants votent à la majorité en Assemblée générale l'occupation du théâtre de l'Odéon.
L'Odéon Théâtre de France cesse pour une durée illimitée d'être un théâtre.
Il devient à partir du 16 mai
un lieu de rencontre entre ouvriers, étudiants et artistes.
Une permanence révolutionnaire créatrice.
Un lieu de meeting politique ininterrompu.
L'imagination prend le pouvoir.
Le théâtre.
Le cinéma.
La peinture.
La littérature sont devenues des industries accaparées par une élite.
Dans un but d'aliénation et de mercantilisme.
Saboter l'industrie culturelle.
Occuper et détruisez les institutions.
Réinventer la vie.
L'art, c'est vous.
La révolution, c'est vous.
Entrez libre.
Pendant que la Sorbonne se transforme en citadelle du mouvement, la grève s'étend, notamment à l'usine Renault de Cléon. Dans la foulée, le 16 mai dans l'après-midi, Renault Billancourt se met en grève. Depuis la manifestation du 3 mai jusqu'au 16 mai, le mouvement a progressivement englobé toute l'université pour exploser brutalement dans les usines. L'initiative n'est plus au mouvement étudiant.
La provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crépines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort.
Journal de la commune étudiante de mai 68, d'après Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet. Présentation et choix des documents, Sophie Maurer. Avec Emmanuel Destremont, Hector Manuel, Joachim Pavi, Georges Slovic, Judith Zins, Rose Martin. Musique originale composée et interprétée par Stéphane Bissière, avec la participation de John Greaves et Laurent Valéron. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Dali Yara. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Assistant à la réalisation, Pablo Valéron. Réalisation en direct de Christophe Hoquet. Le journal de la commune étudiante est édité aux éditions du Seuil.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.